إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله مع الجزء الثاني من دروس أهمية العلم من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، وهو الآن بصدد الذكر في صدد ذكر أهمية العلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الذي أرسلت به. حديث حديثين ثاني ذكرهما المؤلف يعني في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يعني على طريقة سلفنا الصالح في ذكري في بناء ما يقولون على من سبقه. طريقة السلف يعني ليست طريقة فقط يعني يذكرها الإنسان ولا يأتي يعني بما تستلزمه من الأحكام. Donc on a cité que Ibn Qayyim là, il a commencé sa deuxième partie où il montre l'importance de la science à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité en premier lieu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut le bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de rajouter au kamaqala sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on a un doute sur l'exactitude des termes qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, donc on le cite et il est autorisé de citer le hadith même avec le sens, c'est-à-dire en ne citant pas les termes exacts, mais à condition de montrer que de montrer ça à la fin du hadith, ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au kamaqala sallallahu alayhi wa sallam. Et après il a cité le deuxième hadith, et on remarque que ces deux hadiths c'est dans Sahih al-Bukhari, et on a dit le fait de dire, de suivre le chemin du Salaf Salah, c'est pas juste un slogan qu'on dit sans qu'on voit son effet sur la pratique qu'on fait, mais cela devrait se voir à travers justement la pratique qu'on a. Et on voit que là, Ibn Qayyim, il a donné l'importance au livre le plus important après le Coran, quand il a le milieu cité l'importance de la science à travers le Coran, et lorsqu'il a cité en deuxième lieu l'importance de la science à travers les hadiths, il a commencé par les hadiths de Sahih Bukhari Muslim, le plus haut degré, le plus haut degré des hadiths, du point de vue de Siha, c'est Mutafaqa alayhi, Shaykhan, les hadiths où il y a l'accord entre Bukhari et Muslim. Et ça, c'est les hadiths qui ont le degré le plus fort. Bien sûr, le degré bien sûr de Sahih al-Bukhari est élevé par rapport aux hadiths que cite Muslim seulement. Et les conditions de Bukhari sont les conditions qui sont les plus dures. Donc il a cité dans son livre un ensemble de hadiths qu'il considérait comme hadiths Sahiha, des hadiths corrects, justes, si on peut traduire ainsi, et il a laissé beaucoup. Il n'a pas cité dans son Sahih tous les hadiths qu'il connaissait, mais il a cité ce qu'il connaît de mieux. Dans Sahih Bukhari, tu vas trouver des hadiths mutawatira, des hadiths non. Hadith al-mutawatir, ma'ana qalahu, jama'an, an jama'in, yastahilu tawatukuhum al-kadib. On ne peut pas trouver un hadith mutawatir alors qu'il n'existe pas dans Bukhari Muslim. C'est une contradiction, dire qu'il y a un hadith mutawatir d'un côté et Bukhari d'un autre, c'est-à-dire que ce hadith tu vas le trouver dans presque tous les livres principaux du hadith. Dans le fait de donner un titre dans l'exactitude d'un hadith, effectivement, Muttafaq alayh, c'est parmi les plus forts. C'est-à-dire qu'il y a les conditions de Bukhari et Muslim en même temps sur ce hadith-là. Parce qu'il y a des nuances entre les conditions qu'a cité l'imam Bukhari et l'imam Muslim. À l'imam Bukhari, il ne suffit pas que dans la chaîne de transmission, les rouettes soient contemporains. Il faudrait qu'il ajoute à ça le fait qu'ils se soient bien rencontrés. Donc ça, c'est important. Et c'est un petit peu la subtilité de l'ilm al-hadith. À chaque terme, le fait que le rawi dit haddathana, akhbarana, sami'tu, awqala, tous ces termes-là ont leur importance dans les nuances des différences. Et le fait de dire que le Bukhari c'est plus fort, ça ne veut pas dire qu'il y a un consensus entre le muhadithin, c'est le fait qu'il faudrait démontrer à chaque fois qu'il y a eu une rencontre entre les deux rouettes, le fait que le rawi soit thika, donc il y a l'adala et d'abt de ce rawi, ça suffit dans le sens où ce qui dit khala foulain, ça veut dire qu'il l'a rencontré. Le Bukhari, il est exigeant. C'est un hadith où il y a l'an foulain, ça ne veut pas dire qu'il y a eu que le rawi l'a écouté directement le hadith de celui de qui il rapporte directement. Donc il est exigeant, c'est pour ça dans certains des asanid, il répète un isnad donné pour montrer qu'un tel, alors que l'isnad qui cite n'a pas une relation avec le verbe, c'est-à-dire le sujet qu'il est en train de citer, c'est pour montrer qu'un tel, il a écouté d'un tel, effectivement, directement. Et il y a beaucoup de subtilité dans l'ilm al-hadith pour montrer, ça montre l'effort qu'on fait notre salaf concernant cette science. C'est un héritage qui est important. Et celui qui ne comprend pas ou qui ne maîtrise pas le niveau salaf al-hadith, il reste toujours dans le flou de la compréhension de la religion. Je dis dans le flou parce qu'il y a certaines questions de fiqh, de l'aqida ou de les grandes questions de khilaf qui est entre les savants ulama al-muslimin, qui demande pour les comprendre le fait de maîtriser la science du hadith. Si on reste sans comprendre les termes utilisés, on reste indécis sur les sujets de divergence et comme on sait que la divergence des fois elle est liée au jugement sur un hadith qui est sahih et daif, ou des fois sur le jugement d'un hadith, est-ce qu'il arrive au degré de pouvoir être accepté ou non, c'est-à-dire le hadith al-hassan li ghayrihi, c'est des hadiths qui, il y a des degrés. Le problème c'est lorsqu'on arrive à la frontière où on est entre da'if ou sahih, c'est-à-dire le maqboul et le non maqboul, c'est celui qu'on accepte et qui n'est pas accepté, il y a une frontière. Dans cette frontière, là-dessus, il y a sujet à divergence entre les savants concernant les questions, parce qu'il y a des savants qui considèrent que tel ou tel hadith il est da'if, et d'autres ils le considèrent qu'il est sahih. Donc on peut le prendre en compte. Et donc celui qui ne maîtrise pas ces subtilités de hadith, il reste un petit peu dans le flou. On va dire le hadith de Asma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que « Il a balagat al-mahid, fa la yahilu minha an yara illa adawa ashara ila yadihi wa wajih ». Donc le hadith de Rasulullah sallam il dit que la femme, dès qu'elle a ses règles, à partir du moment où elle a ses règles, il n'est autorisé de voir d'elle que il n'est pas c'est ça. Ouais, il est autorisé de voir d'elle que la main et le visage, voilà. Et donc ce hadith c'est hadith Hassan al-Ghairi. Il est à la frontière de ceux qui disent qu'il est juste, donc il est sahih. Et donc de là on tire un enseignement qui n'est pas négligeable. Hein, et de ceux qui disent que non, on ne peut pas le prendre en compte parce qu'il a des. Parce qu'il n'arrive pas à dépasser cette frontière. Et donc là, le jugement de l'Immat al-Hadith, il est important. C'est le plus fort, c'est-à-dire que le Hajar dans Nukhbat al-Fikr a commencé à démontrer, à essayer de faire un taqsim de l'hadith, yani le fait de par cela, mais bon, le mutawatir c'est un nombre limité de hadith. Il peut pas, je connais pas d'exemple, yani de hadith que Bukhari et Muslim n'ont pas cité, alors que c'est un hadith mutawatir. Voilà. Et puis le tawatur c'est tout un cours là-dessus. Parce qu'il y a le tawatur qui est absolu, il y a le tawatur qui est relatif. Hein? Donc il faudrait bien maîtriser c'est-à-dire le sens qu'on veut dire. Il y a des sens de cet hadith qui vont dans hadith innama al-a'malu binniyat, hadith mutawatir. Et pourtant, on va garib. C'est-à-dire que dans sa chaîne de transmission, il arrive à un certain moment où c'est un seul rawi qui le ramène. Et pourtant, après, il s'est tellement propagé qu'il a eu ce titre-là. Donc c'est pour ça qu'il faudrait faire bien et maîtriser le sens. Bon, c'est pour ça que ce hadith, il le cite, il dit bon après, il s'est propagé de telle sorte qu'ils peuvent considérer le sens comme étant Allahu A'lam. On n'est pas dans un cours de Mustalah al-Hadith. On essaie de montrer juste que cette science, c'est une science qui est importante dans le fait de comprendre la religion d'une façon générale, et qu'on ne peut pas à travers le... Et c'est en science, c'est surtout qui caractérise ceux qui suivent manhaj salaf salah, le fait de suivre le chemin des pieux prédécesseurs. C'est une science qui les caractérise dans le sens où beaucoup d'autres donnent de l'importance, par exemple la science de la langue arabe ou d'autres sciences, alors que celle-là a son importance, et c'est surtout qu'elle nous rapproche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la science qui protège la religion, une science essentielle dans la protection de la religion, de même que c'est une des caractéristiques de cette nation, qui n'existe pas dans les autres nations. Abdullah ibn Mubarak, il a dit « Umm al-Islamiyya, ummatu isnad ». La nation musulmane, c'est la nation de la chaîne de transmission, parce qu'il n'y a rien qui est venu selon Jacques ou selon Jean ou selon... après, on ne sait pas, c'est 2 siècles ou 3 siècles après, etc. Tout ce qu'on amène du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a la chaîne de transmission jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À partir, il y en a des grands ulama qui ont écrit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit, quand on lit Ibn al-Qayyim, on sent le fait, cette construction qu'il y a de ce qui vient après, hein, la science qu'ils ont par rapport à ceux qui étaient avant eux. C'est une construction. C'est-à-dire, tu vas aller voir Sahih al-Bukhari, ben, par exemple, de la science, tu vas trouver les hadiths que Ibn al-Qayyim est en train de citer en premier lieu. C'est-à-dire que c'est le salah, il donne l'importance à la science qui les hérite de ceux qui étaient avant eux. Et c'est une transmission, et ça rentre dans le sens où le Rasulallah a dit que les ulama, c'est les héritiers du prophète, c'est-à-dire qu'il y a une continuité, ce qu'on ne trouve pas dans les philosophes d'aujourd'hui, de ceux qui se présentent comme penseurs islamiques ou de ceux qui essaient de dévier le sens qui nous a été transmis à travers toute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon sens, cette religion qui nous a été transmise à travers toute l'histoire, hein, qui nous est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve pas chez ceux-là, on ne trouve pas cette continuité. Quand il parle d'un sujet, on ne trouve pas le fait qu'il se réfère à Sahih Bukhari, à Sahih Muslim, il se réfère à sa pensée, à sa bonne logique qu'il considère ainsi, hein, et on trouve qu'il est pauvre en texte qui vient de notre salaf. Et quand tu lui dis, voilà, il faudrait, le professeur Asselam, il a donné l'importance à la science aux plus prédécesseurs, il te dit, moi, je suis les plus prédécesseurs, je suis les grands ulama, je suis l'imam Malik, etc. Et, mais dans sa pratique, on ne trouve pas ce suivi. Ce suivi, ce n'est pas un slogan qu'on cite. Il faudrait qu'on trouve, yani dans ceux qu'on écoute et qui se prétendent yani, suivre yani, le chemin des pieux prédécesseurs, il faudrait qu'on ait des preuves, il faudrait qu'on écoute le fait qu'il nous ramène yani, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'on est lié quand on les écoute et quand on lit ce qu'ils écrivent, on est lié à l'air de nos pieux prédécesseurs, yani, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, de ceux qui sont venus après. Cette continuité, c'est un des signes qui nous permet de discerner entre tous ceux qui sont des beaux parleurs dans la religion, hein, ceux qui sont ou qui ne sont pas sur le droit chemin. J'ai cité, c'est peut-être un détail, mais on en a besoin aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui se prétendent porte-parole de la religion, alors qui ne sont pas ni sur le droit chemin qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Et donc le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que à qui Allah azawajal veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion, ça montre l'importance de la science, parce qu'il pouvait lui donner le mieux de ce qu'il y a sur terre, mais il lui a donné la bonne compréhension de la religion. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre que il donne un exemple, comme dit Ibn al-Qayyim, un exemple qui est lié à la pluie, à l'eau. Et il dit que les gens ont réception vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jalla nous envoie comme révélation. Donc il cite la parabole, l'exemple qui donne par rapport à ce que Allah Azza wa Jalla a envoyé comme révélation. Donc c'est comme l'exemple d'une pluie, où le raid c'est une pluie qui est bénéfique, hein, qui arrive au niveau, qu'elle puisse abreuver la terre sur laquelle elle tombe. On a dit dans la langue arabe, hein, il donne plusieurs termes à chaque type de pluie. Hein. Quand c'est une petite pluie, il a son nom. Quand c'est une pluie qui est abondante, il lui donne un nom. Et là, c'est une pluie qui est abondante et qui est bénéfique. Et donc, le fait qu'elle soit abondante et bénéfique, c'est lié, ça veut dire, et là c'est un exemple pour que dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que cette révélation, elle est abondante et bénéfique. Elle est bénéfique, il y a tout ce qu'il faut dedans. Hein. Et donc il a donné l'exemple, donc il a donné le premier exemple des rivières qui reçoivent cette eau, ou de la terre qui reçoit cette eau, Il dit une première, elle a accepté l'eau, c'est-à-dire qu'elle l'a absorbée et qu'elle a fait pousser le kala ou l'ushb al-kathir. Et on a donné la différence entre le kala ou l'ushb. On a dit quoi la dernière fois? Maintenant, on a la différence entre le kala ou l'ushb. On a dit que là, c'est le fait de citer un cas particulier après avoir cité le cas général. Kala, l'ushb rentre dans le kala. Tout ce qui se mange, hein? Tout ce que mangent les bêtes, c'est le kala. Hein? Et le ushb, c'est un cas particulier par rapport au premier mot. Hein? Et on a dit que là, il englobe ce que mangent les animaux comme de ce qui est dur et de ce qui est mou. Tandis que le ushb, ça concerne que ce qui est mou. C'est pas la traduction en français, c'est ça. Ibn Hajar, il cite un petit peu, il dit que là, ça englobe Ratb al-Yabis, tandis que le Hushm, c'est plutôt Ratb. Et parmi ces terres, donc la première terre, elle a accepté l'eau, elle l'a emmagasinée et elle a fait pousser, il y a la végétation qui a poussé autour. La deuxième, elle a emmagasiné l'eau, mais il n'y a pas eu de végétation autour. La troisième, elle n'emmagasine pas et il n'y a pas de végétation qui pousse. Donc c'est, en résumé, ce qu'a cité le professeur Hassan dans ce hadith. Et ça donne l'exemple des gens vis-à-vis de la révélation. Hein, la révélation, c'est comme la pluie. Nous sommes des récepteurs. J'espère qu'on sera cela dans le premier degré. Hein. À ce degré des savants et de ceux qui profitent de cette science qui vient de l'Azza wa Jalla, qui en font profiter aux autres et qui en tirent les conclusions, ce qu'il faut comme fawaïd. En français, fawaïd, c'est les profits, les enseignements. Profits. Fawaïda, c'est le profit. Oui. Rien à dire. Le profit qu'on tire d'un hadith, tous les enseignements qu'on peut tirer d'un texte. Donc Ibn Qayyim il dit Shabbaha sallallahu alayhi wa sallam al-ilma wal-huda alladhi ja'abihi bil-ghayt. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de la science comme cette pluie qui est bénéfique. لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد. Parce qu'il a dit les deux, ils sont la source de la vie et manafi, de tout ce qui est profitable. Et la source de ce qui est mangeable, l'ardia, hein, et ou l'adouya, et de tout ce qu'on utilise comme médicament, comme. Donc dans les deux, on tire ces choses. C'est-à-dire que, à travers la pluie, on a la végétation qui nous permet d'avoir différentes utilités. C'est-à-dire que, on mange à travers ça. On a les médicaments à travers ça, et aussi Shara, c'est la même chose. Et donc, donc il a dit, si on veut englober ce dont l'ensemble des humains ont besoin, on peut les limiter dans cela. Hein? La pluie et la science. La pluie, c'est elle qui nous donne, yani, il n'y a pas de vie. C'est la vie matérielle, et l'ilm, c'est ce qui permet la vie des cœurs, et sans cette science-là, on est perdu. On vit comme des morts. On est des cercueils ambulants, c'est ça? Non, c'est pas le fait d'être... Hein? Ça, c'est un voile intégral de l'ignorance. Hein? C'est le... وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. Donc il a donné l'exemple des cœurs par les terres. C'est le cœur qui reçoit. Donc là on a une autre notion qu'il faudrait bien qu'on comprenne, c'est-à-dire que ce qui représente la personnalité, la compréhension chez nous, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Donc là, il faut bien qu'on comprenne ce terme-là. Là, le dîn, il est venu pour cerner cette entité, c'est-à-dire pour cette entité importante en nous-mêmes, que nulle science, y en est terrestre, ne prend comme sujet d'occupation, comme sujet d'étude, qui est le cœur. Enfin, le cœur, on l'étudie dans la médecine, son côté matériel, mais le fait de dire que voilà, c'est le centre de la personnalité, celui qui comprend, ça c'est quelque chose qui est lié à la structure de l'être humain, comme l'Azza wa Jalla l'a créé, et c'est-à-dire sa structure qui est matérielle, et le fait de la présence de l'âme. Donc là, on ne sait pas, c'est une inconnue, mais l'Azza wa Jalla nous a dit qu'on le centre de la compréhension, c'est le cœur. Et donc, c'est le comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saluha jasadu kullu, saluha jasadu kullu, c'est-à-dire que le cœur, il représente celui qui dirige. Donc là, la personnalité qu'on a, elle est dans notre cœur. Ah, le cerveau, c'est, quand on dit insignificant, etc., le cerveau, c'est juste un centre, comme on dit, c'est là où il y a c'est le centre de raisonnement, mais celui qui commande, c'est le cœur. Enfin, plutôt. Le raisonnement, parce que des fois, insan, il sait, parce qu'il a conscience que des choses, elles sont nocives, mais il les fait quand même. Donc, il y a un pouvoir plus fort que sa raison. Qui est le cœur? C'est-à-dire, il y a des fois, par ta raison, elle te dit, ne fais pas que ça, c'est pas bien. Mais malgré ça, tu te sens faible devant cette chose, soit à cause de la tentation, soit à cause d'autre chose, c'est-à-dire, et tu l'as fait malgré le fait que tu es peut-être un spécialiste de la question. Tu peux être un médecin qui sait très bien la nocivité du fait de fumer. Mais il fume. Ça, le fait de comprendre c'est quoi le sens, c'est un sens qui est important, qui est fort, dans lequel, donc la science, elle est là. Et le fait d'essayer, nous, à travers le fait d'assister aux cours de science, le fait d'apprendre la science, le fait de faire l'adoration, notre but, c'est d'essayer d'avoir un cœur qui est fort, qui est solide, dans la religion. Hein? Et ça, c'est une science... C'est une science qui est spécifique à la religion. Il n'y a pas une science matérielle qui s'occupe de cela. Hein, tu peux trouver un homme, mashallah, il fait l'impression quand tu le vois, hein, il peut abattre des murs, mais il est faible devant certaines tentations. Hein. Et pourquoi? Parce que son cœur, il est faible. Et le fait de voir un bon corps ne veut pas dire que derrière, il y a un bon cœur. Et notre religion, notre salut, il est dans le fait qu'on ait des cœurs saints. Notre salut dans Dine, dans Dinia, c'est justement, c'est cela, surtout par ces temps. Le fait d'avoir le pouvoir de baisser les yeux, alors qu'on a eu un premier regard appétissant, parenthèse, qui nous incite à regarder, ça, c'est un problème de cœur fort et de corps qui est fort, et de cœur qui est fort et de cœur qui est faible. Et donc, l'insane, surtout par ces temps, hein, lorsqu'on passe d'hiver à l'été, il y a la nudité, il sent qu'il y a l'attrait du regard devient fort, parce qu'on sort d'une période où on voit quand même des. Hein, c'est la nudité, c'est une question. Même dans le froid, ils arrivent quand même à ne pas respecter les règles de la pudeur. C'est-à-dire, surtout dans ces périodes-là, l'homme sort, c'est comme lorsqu'il va à la Mecque, lorsqu'il va pour faire une omra, lorsqu'il revient vers ce pays-là, il se demande comment il fait pour patienter. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait que le hijab, c'est une ni'ma pour la femme et pour l'homme. Hein, quand tu es dans un milieu où tu ne vois pas, ça fait monter tentation qu'il y a entre l'homme et la femme. Lorsque tu es dans un milieu où il y a trop d'unité, ça fait refroidir. On est dans un milieu de frigidaire, comme on dit. De gens qui sont frigides, parce que tu vois des gens qui sont assis devant des femmes presque comme Allah Azza wa Jalla les a créés, ils ne réagissent pas. Tu ne sens pas réagir. C'est anormal. Allah Azza wa Jalla, il a fait que l'homme, il réagit lorsqu'il voit la nudité de la femme. S'il ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème. Mais la zoologie l'a fait que cet instinct soit un instinct qui est fort. Même si tu es philosophe, il faut que tu aies une femme, il faut que tu vives avec. Parce que c'est ce qui, c'est un instinct qui est fort, qui assure la continuité de la race humaine. Donc il a fait cet instinct, il est fort. Mais le fait est tel que, quand on est dans un milieu où il y a trop d'unité, cet instinct s'affaiblit. Et donc on a dit que l'insane, il faudrait qu'il fasse attention à ces moments-là, parce que c'est des moments où le shaitan, il profite pour essayer de dévier l'insane. Il vous laisse suivre le regard, etc. Et ce qui intéresse le shaitan, c'est pas surtout le péché, c'est ce qui est après le péché. C'est d'arriver à sortir complètement du droit chemin sur lequel tu es en train de suivre, ou du bon suivi de l'adoration que tu es en train de faire. Ce qui te fait tomber dans le péché, et après il te dit, oui, mais tu as fait ce péché, tu n'es pas à la hauteur de... Hein, tu vas aller à la mosquée, tu vas prier, t'es hypocrite, tu as fait ça. Donc il essaie de te dévier. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui vient après. C'est pour ça qu'on dit la question de fait de s'occuper de l'état du cœur, c'est quelque chose d'important, de très important. Et le fait de maintenir cette force, hein, la force de nos cœurs, c'est l'effort qu'on fait d'une façon journalière. Il ne faut pas, diminuer dans l'effort qu'il faut porter à cela. Quand on a un cours, des fois, il faut essayer d'assister une fois par semaine ou deux fois par semaine, ou faire un effort qui est continu, ou faire prier le lit, ou salat, ou siyam, etc. Toutes ces actions, ça maintient l'état de foi, ça maintient la force du cœur. Et si on la délaisse, même si on a une certaine science, on peut tomber dans les péchés, on peut tomber dans les erreurs. Donc, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné l'exemple des terres par le cœur, c'est pas pour rien du tout. Hein, ça veut dire, ça montre quoi? Ça montre qu'il faudrait qu'on s'occupe de ce qui est en nous, qui est ce qui est réceptif de cette révélation, qui est le cœur. Et donc c'est vers cela qu'on devrait faire l'effort pour qu'il soit fort et pour qu'on puisse y aller, continuer, suivre le droit chemin et persister sur le droit chemin. Il a dit donc les cœurs. Il a donné l'exemple des cœurs comme les terres, et il a dit comme les terres, elle reçoit l'eau, le cœur reçoit la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et le processus de cela, on le sait pas. Hein, comment la foi, on sait que la foi elle augmente par les bonnes actions, comment elle augmente, ça c'est des choses qui sont liées à l'âme, ils sont liées. Quand tu écoutes le Coran, tu sens ton cœur qui réagit. C'est un cœur qui est vivant, bien sûr. Et cette réaction, on ne peut pas nous l'expliquer comment. Quand on fait des bonnes actions, quand on fait cette prière, quand on assiste au cours d'Al-Hilm, on sent des fois. Et il y a des périodes où on sent tellement une force de foi qu'on se dit comment un certain tombe dans le péché. Ou comment se fait-il qu'on tombe dans les péchés? Il y a des périodes aussi qui arrivent et où notre foi elle est faible et il faudrait faire attention à ces périodes-là. Je donne ce conseil à moi et à l'ensemble de notre jeunesse. Surtout dans ce pays-là, c'est pas facile. Le fait qu'on vit en Ifibila de Koufar, bombardé sur le domaine des choubouettes et sur le domaine de la tentation, les déchirouettes, en même temps. Hein, c'est un effort qui demande à ce qu'on ait des cœurs qui soient forts. Hein, des gens qui. On peut peut-être faire un suivi léger, notre religion, de la science dans nos pays, mais dans ces pays-là, on n'a pas le droit. Parce qu'on entend tellement les choubouettes tous les jours. Et on est tellement attiré aussi par les shahawats qui entourent. Si tu vis dans ce pays-là, si tu suis les shahawats, c'est le normal. C'est quand tu essaies d'être sur le droit chemin que tu parais anormal. Et donc si tu es dans un milieu où ça paraît normal de suivre le shubuhat, tu es plus tenté à y aller que dans les pays où il n'y a pas. C'est l'avantage de vivre dans les pays, c'est un des avantages de vivre dans les pays musulmans. Et on ne peut pas comparer les pays musulmans, quel que soit, aux pays tels. Ça, c'est des gens, ils veulent ainsi se tourmenter parce qu'il a vécu ici, parce qu'il a l'ambition d'être. Il ne voit pas son avenir dans les pays musulmans. Il a tendance à dire l'islam, c'est ici. Et qu'il n'y a pas lieu de faire les efforts. Dans nos pays musulmans, il y a autant de péchés qu'ici, c'est pas vrai. On ne peut pas comparer un pays musulman à un pays tel kufr, parce que dans un pays tel kufr, là, c'est le kufr. Et donc, il y a des gens qui discutent, tu trouves des gens, tu leur dis, moi, Dieu, il a dit, il va dire, oui, mais ton Dieu, il a dit, moi, je ne crois pas. C'est ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on trouve rarement dans nos pays. Dans les pays musulmans, ils n'osent pas avancer à dire, voilà, ceci dans le Coran, moi, je ne le prends pas, ou le discute, il ne prend pas comme référence. Dans ces pays-là, si. Dans les pays unités al-Kufr, si. Et donc, on revient à ce qu'a dit Ibn Qayyim, dans le sens qu'il cite que les premiers cœurs, c'est les cœurs qui gardent cette révélation, qui en profitent, qui en tirent les enseignements, et c'est les cœurs des ulama, et qui font profiter les autres. Il dit le deuxième type de tels, ceux qui gardent cette révélation sans pouvoir tirer des enseignements comme Talabat al-Ilm. Donc ceux-là, ils ont cette révélation et ils la transmettent aux autres. Donc les gens, ils viennent, ils trouvent cette eau, ils le boivent, ils l'utilisent pour abreuver ce qu'ils ont comme le Mashiach, hein, les bêtes, c'est ça, les troupeaux qu'ils ont, et ils l'utilisent aussi pour irriguer les terres qu'ils ont. Donc c'est des gens qui sont porteurs de science, ces deux types, les deux premiers types, ça c'est les deux types de terre, les deux premiers types de cœur, c'est là où on devrait, Inch'Allah, se placer. Si on n'est pas des savants, au moins, on transmet ce qui vient des savants. On a un ajr. Et ça, c'est les grands projets. Il y a des grands projets dans le monde matériel, c'est des gens, ils font des commerces, ils voient loin, ils se disent que ce commerce-là, il va ramener de l'argent, et il va ramener de l'argent à moi, il va ramener de l'argent aussi à mes enfants, il projette sur des années, etc. Ça, c'est un projet de matériel qui ramène qui a un intérêt sur terre. L'insan musulman, quand il voit son intérêt, il le voit à longue échelle. Il doit penser à profiter de cette vie d'ici-bas tant qu'il est en vie, et aussi penser au projet qui marche lorsqu'il est dans sa tombe. La science qu'il transmet, c'est quelque chose qui reste après ta mort, et ça, t'en as besoin. T'imagines tout seul dans ta tombe et tu ne sais pas où. T'as des hassanettes qui courent. C'est quelque chose d'important. Moi, c'est un projet qui laisse les gens courir derrière la science, laisser des vestiges. Le Sousa Rassalam, il a dit, il y en a trois choses. Il y en a reste après la mort, dans le sens qu'il alimente notre compte de hassanettes, si on peut dire. Sadaqa jariya wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun. Donc on a les trois choses, il y en a qui sadaqa jariya, une seigneur a fait une sadaqa, mais sadaqa elle marche, on dit voilà, on a fait une sadaqa à une mosquée, donc tant que cette mosquée elle est toujours construite, elle est toujours debout, donc tu as des hassanettes. Un enfant, tu as bien éduqué, le fait qu'il te fasse le doua, t'en profites dans ta tombe. Mais ce qui va plus longtemps, c'est surtout le fait de transmettre la science, de donner bon exemple. Quand on est dans le temps où il y a le ghurba de l'islam, c'est le fait que qu'on ne le voit pas dans la réalité, devient étrange le fait de pratiquer une des sunnas du prophète. La sunnah du prophète, ça devient quelque chose d'étrange. Donc le premier qui prenne ce défi de faire revivre une sunnah qui a été oubliée, ils prennent leur ajr et l'ajr de tous ceux qui les ont suivis. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a l'ajr de tous les musulmans qui viennent après lui, parce que c'est lui qui a ramené ce message. Et ceux qui combattent, il y a l'importance de la science, ceux qui combattent la science ta'achar, ceux qui disent que cette science, que le fait de s'occuper de la science, des halakat l'ilm, etc., c'est pas important, ils sont dans leur réalité en train de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils nuisent au fait que la sunna elle se transmet. Ils nuisent à la propagation de la science qui est la source de l'hassanat, celui qui ne sait pas comment elle est la sunna, comment il la pratique, s'il ne la connaît pas. Et donc on est dans un temps où il faudrait, certains y trouvent beaucoup de, il se dit, on est dans un gourbat à l'islam où il faudrait profiter de cela yani, pour essayer de faire l'effort de faire revivre yani, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que là-dessus, il y a beaucoup d'ajr. Ça, c'est des projets qui restent après, après la tombe. Et la troisième terre qu'il a citée, c'est une terre qui ne tient ni l'eau, et qui ne fait pousser aucune végétation. Et on a dit là, dans le dernier cours, que ça montre un petit peu une schématisation de la façon de la communauté dans laquelle on est en train de vivre. Hein. Si on prend ce hadith pour voir, si on essaie de prendre ce hadith pour voir le milieu dans lequel on est, et on le compare par rapport à ce hadith, c'est-à-dire qu'on prend la science comme la pluie, etc., et les terres comme les ulama, comme ceux qui retiennent cette terre, etc., et la verdure, quand on est en train de vivre ici, et dans le milieu dans lequel on est en train de vivre dans un désert. Il n'y a aucune, il n'y a pas des terres qui retiennent ni ce qui est autour de nous. Il n'y a pas, on n'a pas de ulama, on est dans un milieu à risque. Parce que autour de nous, il n'y a pas les savants qui nous apprennent cette religion, qui nous montrent le chemin qu'on a à suivre, qui font les fatwas qu'il faut. Et donc il y a des gens qui s'avancent dans la religion alors qu'ils n'ont pas les bagages qu'il faut parce qu'il n'y a personne. Donc lorsqu'il s'avance, il va faire plus de dégâts malgré sa bonne intention que celui qui ne s'avance pas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ الصُّدُورِ وَلَكِنْ يَنْزِعُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاء حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَوْ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَأَفْتُوهُمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Des gens sont en train de parler de religion complètement plein, vraiment c'est ignorant quand on essaie, et alors qu'ils se prétendent comme représentants de la communauté yani musulmane. Quand on parle, c'est une chose qui sont dans le Coran. Tu dis, il n'y en a pas. On écoute les polémiques qui sont actuellement autour du nouveau terme, yani hijab intégral, ça n'existe pas yani dans notre religion. Et tu dis, il n'y a pas dans le Coran. Mais ceux, les savants qui disent qu'il faut cela, c'est à travers le Coran qu'ils ont pris la preuve. Pour les c'est des versets qui sont connus, les gens ils sont derrière, ils sont là. Tu dis oui, Ramadan, il faut qu'on fasse tous les tarawih, tous les sinhizm, mais il faut les vivre ces hizm. Tu dis bon, essaie d'écouter un petit peu, mais bien le comprendre. Hein? Non, bon, il écoute. Il pense que c'est juste le fait de lire, etc. Et de lire tout le... Mais il faut qu'on le vive avec. Et c'est des gens qui s'avancent. Beaucoup de gens posent des questions. Quand il s'agit des questions qui sont loin de l'islam même, on parle d'un oiseau, je ne sais pas quoi, on ramène un spécialiste qui a fait toute sa vie derrière cet oiseau. Il va, il voyage, il va là où il est, même si ce oiseau il fait des milliers de kilomètres pour la route, il le suit, il va, je ne sais pas, pour l'or. Quand il s'agit d'islam, on pose la question au premier venu. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Puis, il faut ramener des spécialistes. Dans toute question, on ramène des spécialistes. Mais quand il s'agit d'islam, on pose la question à tout le monde. C'est comme si c'est la démocratisation de la science. C'est comme si on veut apprendre la mécanique, on pose la question, on lui dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses de telle formule? On pose pour quelqu'un, on lui dit, oui, allez, dans la physique quantique, explique-moi, qu'est-ce que tu penses de l'équation Schrödinger? Il va dire, mais c'est quoi cette équation? Qu'est-ce que tu penses de la physique quantique? Et tu dis, qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont en train de parler dans la religion, alors qu'ils sont à des années. Si on voit, ils sont loin, on ne pose pas des questions concernant une science donnée à des gens qui ne sont pas spécialistes de cette religion, parce que ça fait des aberrations. Il y a des gens, ils arrivent à dire il n'y a pas le voile intégral, et même à la Mecque, il n'y en a pas. Quand même, si vous ne voulez pas d'islam, si vous ne voulez pas de voile intégral, vous êtes libre en France, mais il n'y a personne qui vous force, vous ne voulez pas l'islam. Dites, vous ne le voulez pas, c'est tout ce qu'il y a. C'est pas... Mais ne dites pas des analyses pareilles. Ne dites pas des... C'est des choses qui sont... C'est une aberration. Je ne sais pas hein, comment... Après, tu me dis s'il n'y a pas... Si... Quand il s'agit de montrer l'islam par le doigt, de dire, voilà, l'islam, il dit qu'il faudrait frapper la femme, il te ramène le verset et le... Parce que ça, c'est... Et quand il s'agit de cacher autre chose, non, il n'y en a pas et c'est tout, point à la ligne. Et ça montre une intention maléfique, en parenthèse. Et C'est désolant pour des gens qui se prétendent rationnels, qui se prétendent suivre un chemin qui est juste et qui font de belles phrases. C'est désolant pour eux et pour leur image. Qu'on a dit autour de nous, il y a beaucoup de gens, et c'est un petit peu le plus grand mal dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, c'est cette ignorance qui s'est propagée, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans cette religion, même avec bonne intention, avec des mauvaises interprétations, et ils essaient un petit peu de donner des solutions aux maux dans lesquels vivent les musulmans, à travers ce qu'ils pensent eux, à travers leur propre philosophie, leur propre façon de voir, alors qu'il y a la solution dans les textes, dans le fait de suivre le Coran, de suivre les savants, etc., de suivre le chemin des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas 36 chemins, on y a suivi, il n'y a pas un autre chemin qui permet de revenir à la force de notre religion sans ce chemin-là. Le fait de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ibn al-Qayyim, al-Qismani al-Awalani, ishtaraka fi al-ilmi wa al-ta'lim, kulun bihasbi maqabilahu wa wasala ilayhi, fahada yu... يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. Il y en a qui prennent le Coran par exemple, ils l'apprennent par cœur, ils le font transmettre aux autres, il y en a qui prennent les sens qu'il y a de ce Coran, dans le Coran et ils le transmettent. Donc ils donnent l'exemple, ceux qui maîtrisent le sens et qui tirent les enseignements, ils sont dans le premier exemple. Ceux qui prennent les textes et qui les transmettent sont dans le deuxième exemple. Et après, Ibn Qayyim, il va vers un verset qui va dans le même sens. Il dit, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِيَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. Donc, ce verset, il va dans le même sens que le professeur Asselam dans ce hadith, il va dans le sens de ce verset. Anzala min sama iman, ayam kulubu. Fasalat awdiyatum biqadariya. L'eau, il est comme du ciel, et ça fait des rivières, et chaque rivière, elle prend ce qu'elle peut comme capacité. Et donc, c'est comme la révélation qui descend, et chacun, il profite de cette révélation selon la force de son cœur, selon sa position dans la science. Donc Seil, c'est la rivière, elle prend à sa surface, sur sa surface, elle prend tout ce qui est déchet, tout ce qui est feuille, tout ce qui est léger. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. Et tout ce qui est aussi, tout ce qu'on attaque avec le feu, pour le faire fondre, pour faire éliminer les impuretés. Ça veut dire que l'or, quand on l'a, dans son état naturel, il y a des impuretés, donc quand ils le font, on le fait fondre, et pour que cette impureté, elle vient au-dessus, parce que l'or, il est plus lourd que son impureté. Ça montre que cette science, c'est comme l'eau qui transporte les feuilles, c'est-à-dire la science, c'est quelque chose de lourd et de bénéfique. Les choubouhettes qui sont sur cette science, c'est comme des feuilles, c'est léger, mais c'est ce qui apparaît. Ça a un effet de... Quand tu vois, tu vas voir, toujours, ce choubouhette, elle a un effet d'impression important au début. Mais en réalité, quand tu rentres dans cette choubouhette, tu trouves que c'est vite, c'est léger, c'est rien. Ça a une impression, c'est comme ici, quand tu viens en France, t'es ébahi, tu vois, tu penses à la civilisation, les gens sont en train de vivre, tu vois les pommes, etc. C'est des grosses pommes, mais quand tu manges, tu ne trouves pas de goût. Quand tu essaies de vivre 10 ans après, 20 ans après, tu dis oh là là, moi je pensais que le fait de vivre en France c'est quelque chose de. C'est le paradis, mais tu parles de quel paradis tu es en train de vivre, C'est le paradis des grèves, c'est le paradis de tous les mondes dans lesquels on est en train de vivre, c'est l'impression qu'on a au début. C'est beaucoup, ils ont ce rêve-là, ils se trompent. Ils sont dans une irma des fois dans leur pays qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas connu ce que c'est ici. Ils n'ont pas connu celui qui ne connaît pas le mal. Ce qui m'appelle Cheikh Omar ibn Khattab, la tuntaha kanna ura l'islam, urwatan urwa, idha nasha'a fil islam man lam ya'rif al-jahili. On va perdre cette religion est yani, partie et partie, hein, si il y a des gens qui naissent dans l'islam sans connaître ce que c'est la jahiliya, parce que celui qui ne connaît pas le jahiliya, il veut savoir ce que c'est, yani, il pense que ce qu'il est en train de vivre alors qu'il est dans un milieu qui est plus bénéfique pour lui, il pense que le fait de vivre chez Kuffar c'est mieux que le fait de vivre chez lui. Alors qu'il est plus heureux chez lui qu'ici, malgré ce qu'il n'a pas, les avantages matériels qu'il a ici. Donc on a dit que l'or, pour enlever son impureté, il le fait en forme. Donc Allah Azza wa Jalla, il donne cet exemple. C'est-à-dire pour obtenir une hilya, c'est ce que portent les femmes, c'est-à-dire comme une parure, c'est-à-dire ou un outil donné, on utilise un ustensile. Donc c'est le matel que l'Azza wa Jalla donne, hein, de ça. Que Shubuhat, c'est quelque chose qui est léger, qui est au-dessus de, hein, qui reste. Parce que quand l'insan il est rempli de science, Shubuhat elle est pas à l'intérieur. Elle est à l'extérieur. Tandis que celui qui a un cœur qui est vide, Shubuhat elle est à l'intérieur. Quand il n'y a pas d'eau, ce que porte l'eau, il est dans le fond. Ce qui n'est pas l'eau. C'est ça, un cœur qui est vide et Shubha, qui vient, elle peut te prendre parce que tu ne sais pas, tu n'as pas les règles de la science. Et je sais, n'importe qui, elle, il peut venir avec de belles paroles, il peut t'induire en erreur. يقول ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علما كثير. Donc il a donné l'exemple des cœurs comme des rivières. Un grand cœur c'est comme une grande rivière. كواد عظيم يسع ماء كثير. Comme une grande rivière qui englobe beaucoup d'eau. Ça c'est le cœur des savants. وقلب صغير un petit cœur إنما يسع علما قليل. كواد صغير إنما يسع ماء قليل. فقال الله تعالى فسالت أودية بقدرها فاحتملوا السيل زبدا رابية. هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. C'est-à-dire que l'ilm, quand il est là, il fait dégager ces choubouhats, hein, et aussi que le sens vers lequel va la rivière, il va cette eau, hein, il suit, il y a la direction de l'eau, il y a la direction de la science. S'il n'y a pas cette science, l'insan il suit là où le mène, il y a ni les choubouhats. Et donc il donne l'exemple par l'eau parce que c'est quelque chose de précieux, il donne l'exemple aussi par l'or, parce que l'or c'est quelque chose de précieux. À chaque fois on a des choses précieuses dans le Coran. Quand l'Azza wa Jalla fait les paraboles, il donne l'exemple de la science, soit par l'eau ou par l'or, parce que c'est des choses qui sont précieuses. C'est pour montrer que cette science, elle est puissante, que cette révélation, c'est comme l'eau qui nous entoure, et son importance, là, il l'associe à l'importance de l'eau qui nous entoure, de l'or qu'on utilise, etc. وأخبر سبحانه أنه راب أن يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا خرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل تشرى وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء أو جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. نعم. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. نعم. يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. نعم. Donc il consolide le fait que l'exemple que l'Azza wa Jalla a donné concernant l'or, hein, et comme il sort cette impureté, l'exemple de l'or c'est la science, l'impureté c'est les choubouhats, c'est tout ce qui va à l'encontre de la science, et qu'il faudrait donc faire attention yani, dans nos cœurs face aux choubouhats, ne pas négliger la force de ces choubouhats si on n'a pas de science. Un shaitan, attention, il te rend toujours par le fait que trop intelligent pour que Shaitan il peut induire en erreur. Ça, c'est une erreur. S'il n'y a pas cher, on se perd. Ça, c'est une erreur, il ne faut pas trop. Et l'insane, il faut qu'il comprenne que le fait d'étudier le dîn, de connaître l'essence qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, c'est quelque chose de vital pour lui. Et s'il y a des jours qui passent sans qu'il fasse un effort dans cela, c'est une journée qui est perdue de sa vie. وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة. Donc il a donné l'exemple là, de l'eau, parce qu'il y a le sens de la vie, le fait de tabrid, c'est le fait que quand il fait chaud, yani l'eau ça permet de s'altérer, yani de rafraîchir, avec la fik, والمنفعة c'est toutes les utilités qu'il y a. ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق. Donc il a ici trois attributs pour l'eau. Ibn Qayyim cite aussi trois attributs bénéfiques pour le feu. Ah, c'est une bonne sélection logique qui montre la science. Donc il dit au matin bin nar, les mafi min al ida'a, la lumière, ida'a ou l'ishraq ou l'ihraq. Sa possibilité que c'est une lumière en elle-même, c'est une lumière qui est bénéfique et qui transporte une chaleur. Hein, il y a l'effet. L'effet lumineux, l'effet de la chaleur qui est utile, et l'effet aussi du fait qu'elle brûle, et elle brûle ce qui est nocif. L'ihraq, c'est elle brûle ce qui est nocif. Ayatou, le Coran touhi le qulub kama touhi l'ard bilma. Donc il dit le Coran, ce Coran, il fait revivre le cœur, les cœurs comme l'eau fait revivre les terres. Et ici, qu'il faudrait réfléchir à ces exemples par Allah Ta'ala, « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » Mais surat al-Ankabut, Allah Azza wa Jal, nous cite dans ce verset qu'il faut réfléchir sur les paraboles, comme sont traduits, sur les paraboles qu'il donne dans le corps. Et il a dit, nous la comprennent que les gens de science, l'alimoun, donc c'est important. Et Salaf Salah, quand il arrivait devant un exemple qu'il ne comprenait pas, il n'était pas content, il se sentait pas bien parce qu'il n'a pas compris un exemple. Il dit, je ne suis pas parmi les gens de science. Comment se fait-il que je n'arrive pas à comprendre cet exemple que Allah Azza wa Jalla a donné dans le Coran? Donc, Payim cite après le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. On dit Ali radiallahu anh, comme on dit Abu Bakr Sadiq radiallahu anh, comme on dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anh. On ne dit pas Ali karama la wajah même, que l'Azza wa Jalla karama wajah, ou l'imam Ali à chaque fois. Il y a certains qui citent des termes vis-à-vis, c'est-à-dire c'est une réaction par rapport au Shia, etc. On utilise des termes pour les compagnons qui sont les mêmes. Soit Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, on a des respects pour tous les compagnons. On n'est pas des chiites qui donnent des attributs spéciaux à Ali ibn Abi Talib radiallahu anh et pas aux autres compagnons et on ne suit pas, on ne sait pas tarifa qui suivent. Parce que à chaque fois qu'ils visitaient, Ali radiallahu anh, il dit l'imam Ali, karam Allah waja. Et quand ils citent Abu Bakr Sadiq ou Amr al-Khattab, ils ne donnent pas ces attributs-là. Donc il faudrait mettre les compagnons sur le même pied d'égalité, j'allais dire, dans le sens quand on cite les noms. Il ne faut pas rentrer dans certains réflexes. Et ces réflexes, on les a hérités à travers notre histoire du fait qu'on est influencé par ces groupes qui ont dévié du droit chemin. Le fait qu'Allah Azza wa Jal guide par trois un seul homme sur le droit chemin, c'est mieux pour toi, mais c'est-à-dire le meilleur ce qu'ils avaient combien, hein, ils avaient les biens, les animaux, les meilleurs des ce qu'ils avaient comme ibil, c'est la meilleure qualité de ibil qu'ils avaient, c'est-à-dire des chameaux qu'ils avaient, et donc dans ce hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre que le fait que tu sois yani, une raison pour que certains reviennent sur le droit chemin ou yani, sur le droit chemin, c'est mieux pour toi que le meilleur de ce qu'il y a dans ce bas monde, la meilleure je dans ce qui est matériel, hein, dans ce que tu peux posséder comme chose matérielle. La meilleure des choses que tu peux posséder dans ce monde matériel, c'est le fait que tu sois une cause pour que quelqu'un rentre sur le droit chemin, il revient à la religion, ou il était égaré, il revient parce que le fait de l'hidayah, ça ne concerne pas ceux qui sont loin de l'islam et qui rentrent dans l'islam. Ça concerne aussi ceux qui sont dans un islam qui est loin du droit chemin et que tu fais revenir sur le droit chemin. L'hidayah, elle a deux niveaux. Hein. Tu as l'hidayah générale, le fait que l'insane n'est pas musulman, il rentre dans l'islam. Et après, tu as l'hidayah de deuxième niveau, c'est le fait d'être sur le droit chemin parmi tous les chemins qui sont sur lesquels sont les musulmans aujourd'hui. Hein, c'est pour ça un des compagnons du prophète, il a dit, je ne sais pas quelle ni'ma je dois dire, yani, qui est la plus grande que je connais, c'est soit le fait d'être, yani, que je suis devenu musulman, ou que je suis sur le droit chemin. C'est deux nuances. Hein, donc il y a de l'hidayah, pour certains qui disent, oui, l'important, on fait des efforts, il y a des gens qui rentrent, des gens qui rentrent dans l'islam. Mais si tu les fais rentrer dans l'islam, et alors qu'ils sont dans le shirk, tu les as sortis du coffre vers le shirk. Yani, qu'est-ce que tu as fait? Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a combattu yani, shirk, l'essentiel de son effort, c'était pour combattre. أني عبود الله ما لكم من إله غيره لازم تعبد ربي يعني توحيد الله عز وجل في العبادة أنت تدخل الناس ومن بعد تقول لي واش عليه سي البري سي با غراف اي كومونس اي بري اي ميم سي ديسيدي عبد القادر وسيدي فلتان وي اي كورا كل مراب وانت اللي الكوني الغيب ايتترا سي با غراف نو سي غراف تا با في غران شوز باسكو الله عز وجل وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le fait de faire revenir les gens sur le droit chemin est quelque chose de très, très important. Il ne s'agit pas juste de ni que l'insane il adhère à l'islam dans son sens général, mais il s'agit d'être sur le droit chemin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ceux qui n'aiment pas qu'on cite yani ce hadith, قال افترقت اليهود والنصارى على كم الفرقة 70 فرقة 70 فرقة ou l'axe. Combien ici? Hein? Non, ça. Ouais. Ou l'Ihoud. Ou le. Voilà. Donc, Nasara, ils étaient 71. L'Ihoud, c'est 72 firqa. Ou le Muslimin, combien des professeurs de la Sénam, 73 peut-être. C'est-à-dire que le nombre de divisions qu'il y a dans cette nation, elle est important. Hein? Et après, il a dit, Kulouhafi. Il faut qu'on comprenne le hadith, c'est le prophète qui l'a dit. Il y a des gens qui passent, ils disent, non, ne me cite pas ce hadith. Pourquoi je ne cite pas ce hadith? Et pourquoi tu ne veux pas? C'est le prophète qui l'a dit. Il faut essayer de le comprendre. Les gens, ils vous disent, vous nous dites, on est tous en enfer, c'est bon. Vous, dès qu'on vous voit, on est en enfer. C'est pas le but. Que ça, c'est le hadith que cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de bien le comprendre. Hein? Certains ils disent, bon, ils comprennent ce hadith comme étant un hadith qui dit que tous les musulmans ils sont en enfer, parce que la majorité ils sont pas sûrs. Et comment on répond à cela? La majorité des musulmans ils sont dans le shirk, l'autre majorité elle est dans le bid'a. C'est bon, il n'y a que vous qui êtes. Au paradis, c'est quoi? Comment se fait-il que le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam que cette nation sera la nation la plus peuplée le jour du jugement dernier? C'est ça? Hein? J'ai pas bien entendu. Ils ne sont pas éternellement. Et ça, c'est la notion de dire que pour ce hadith, l'imprisonne de l'Ummah. Le fait qu'il existe le shirk, que Bid'a existe, ou que les faux chemins ils existent, sur ces faux chemins, il y a des gens qui sont des innovateurs d'origine de ces chemins-là qui dévient, hein, en connaissance de cause, et il y a ceux qui suivent sans connaître. Hein. Nos pères qu'on a connus, nos grands-pères, hein, ils en ont toujours appris que l'Azza wa Jal, il est partout. Tu lui dis, Aïn Allah, il te dit il est partout. Il ne sait même pas, on lui a appris cela, malgré sa bonne intention, il a appris cela, il ne sait même pas ce que c'est, yani, ce qu'il est en train de dire réellement. Il y a des gens, le commun des musulmans n'est pas, c'est-à-dire rentre dans le fait de, c'est-à-dire de, ne rentre pas dans cette considération du fait qu'ils sont parmi les gens de l'enfer. Parce qu'ils sont excusés par leur ignorance, par le fait qu'ils ne savaient pas, etc. Certaines choses. Le fait de dire que tel chemin, c'est un chemin de bid'a, ça ne veut pas dire que tous ceux qui le font sont des mubtadi'a. Telle action, c'est une action de groupe, ça ne veut pas dire que tous ceux qui la font sont des kuffar. C'est bien pour le musulman, il faut se croire qu'il y a kuffar. Ça veut dire que dès qu'il y a deux musulmans qui sont au-dessus, ça veut dire qu'ils sont des kuffar. Aussi, le fait que là, il faudrait séparer entre l'ensemble des musulmans et Awam al-Muslimin, parce qu'Awam al-Muslimin, ils n'ont pas assez de science pour déceler c'est quoi l'innovation. L'ensemble des musulmans, cela dans le suivi du sunna du prophète. C'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui montrent bien cette religion, et qui sont sur le droit chemin, et qui utilisent les bonnes méthodes pour appeler les autres, ils arrivent à influencer l'ensemble des musulmans. Et c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu entre ceux qui sont sur le droit chemin et le sunna, et ceux qui essaient d'attirer l'ensemble des musulmans sur des chemins qui sont faux, comme l'Ahbash ou Shia, etc. Et c'est d'exploiter cette bonne intention qu'il y a dans les cœurs de l'ensemble des Awam al-Muslimin. Parce que Awam al-Muslimin, quand il vient, celui qui veut faire une bid'a, il ne va pas venir aux Awam al-Muslimin leur dire voilà, faites une bid'a pour que vous rentrez en enfer. Mais il vient avec le chemin de dire voilà, c'est pas une bid'a ça. Ce que je vous souhaite, c'est quelque chose qui vous rapproche du prophète. Donc, ils pensent que c'est bien. Tu viens là, tu vas leur dire voilà, vous aimez le prophète. On dit oui, bien sûr, j'aime le prophète. Alors, faites un anniversaire. L'ami dit oui. Et lui dit oui, parce que si tu aimes le prophète, tu devrais faire l'anniversaire, parce que cet anniversaire montre que tu aimes le prophète. Bon, donc, c'est une chouba. Mais cette chouba, il faut avoir la science pour la contrer. Et la majorité des gens, ils n'ont pas la science pour contrer cela. Et donc, il y a des gens qui suivent de bonne intention. Et ils pensent, mais il est dedans. Et quand tu lui dis, c'est une bid'a, là, il est choqué, etc. C'est pour ça que, comme dit Cheikh Al-Albani, le haqq, il est lourd. Si on lui rajoute encore notre mauvais comportement, on est, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a mis comme la Il a parlé à certains compagnons, il a dit, vous avec votre méthode, vous faites éloigner les gens, yani, du droit chemin. Et parmi certains de nos frères, quand tu leur parles de, yani, de rifq, dans da'wa, etc., ils ne voient pas, yani, le souci. Tu dis, oui, mais il faut forcer. Oui, tu forces. Tu fais le système, yani, où tu veux détruire celui qui est en face, parce qu'il le mérite, parce qu'il a vu la vérité, et qu'il persiste sur le mensonge, il persiste sur le bid'a, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi une bid'a. Tu lui dis une bid'a, lui, c'est un nouveau. Lui, le bid'a, pour lui, c'est le mot que tu es en train d'utiliser, parce qu'il ne comprend pas. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Il ne sait pas, il a toujours vécu ainsi. Si tu ne lui expliques pas bien, si on n'utilise pas les bonnes méthodes avec les gens, si on n'utilise pas le rifq, c'est quoi un rifq d'Inta? On perd le suivi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'an yahdiya bika, rajul wahid, l'hidayah, c'est quelque chose d'important. Le fait qu'on se donne les règles de Salaf Salah dans la science et dans la pratique de cette science et dans la pratique de da'wah qu'ils ont fait. Et la da'wah, elle a plusieurs niveaux. Quand tu es face à quelqu'un de têtu et qui connaît la vérité, qui essaie de persister, qui présente un grand danger, tu essaies d'être. Tu ne réponds de la méchanceté que lorsqu'elle est dans sa place. Et maintenant, s'il voit, et autour de lui, il voit que des bidas. Donc, allez. Mubtadi, c'est simple. Il ne fait pas d'efforts yani, dans Darwah ou dans le sang des signes. Et tu lui dis, voilà, les gens, il faut patienter avec eux. Il faudrait faire l'effort de la patience. Ce n'est pas facile. Tu viens avec, pour ces gens-là, pour l'ensemble des musulmans, et quand ils te voient des fois, c'est comme s'ils voient un martien. Yani, tellement il y a peu de... C'est un terme, il n'y a pas de martien. Ah, le djinn, donc, ils viennent de Mars, ils vivent avec nous. C'est comme s'ils voyaient quelqu'un qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau. Et vis-à-vis des choses qui sont nouvelles pour Dawalium, parce qu'on est dans une période où, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Badal Islam Ghariban, وسيعود غريبا كما بدا. Alors, c'est un enfant et il pose la question, est-ce qu'on doit se désavouer de ceux qui portent la barbe? Ça me fait peur, une question comme ça, parce que aujourd'hui le fait de porter yani, cet insigne yani, ostentatoire de la sunna, yani, c'est peu. Yani. Les gens qui pratiquent la sunna, ils sont combien? Ils sont minoritaires. Ils devraient penser à essayer de propager la sunna que d'essayer de se porter comme des juges sur ceux qui ne la font pas. Parce qu'ils sont minoritaires, tu seras submergé. Les gens, maintenant, on dit un tel. Tu lui dis, c'est qui c'est un tel? Tu dis, celui qui a la barbe. Ah, je le connais. C'est-à-dire que le fait qu'il y a cet insigne, je ne parle pas aux frères qui n'ont pas, c'est pas pour... je dis tellement, les choses de la sunna, elles ne sont pas pratiquées que aujourd'hui, on reconnaît des gens, normalement, par des choses qui sont des communs des musulmans. Mais tu lui dis l'autre là, il te dit c'est qui? C'est le barbu. Ah oui, je le connais. Pourquoi il se fait connaître? Parce qu'on est minoritaire. Il faudrait qu'on comprenne que dans le cadre de Da'wa, nous, les gens de la Sunna, sur le monde, presque le monde entier, sauf dans des cas où, Masha'Allah, on est dans Bilad Hijaz, Mekka ou Medina, etc., où Sunna la connaît un grand essor, on est dans un cadre minoritaire. Et c'est ce que beaucoup de nos frères ne comprennent pas. Lui, parce qu'il est, Masha'Allah, il étudie, il lit les savants, il écoute les savants, etc. Il se met dans une sphère où il croit que Da'wa, elle arrive à un niveau. Tout le monde, il connaît c'est quoi Sunna, c'est quoi Bid'a, c'est quoi Shirk, etc. Et des gens, ils connaissent même pas. Les choses, quand tu vois l'ignorance dans laquelle vivent certains, c'est effarant. Et les erreurs dans lesquelles peuvent tomber certains, des fois, Pourquoi yani, c'est quelque chose pour lui qui. C'est quelque chose qui suscite l'étonnement. Parce que certains, ils pensent que le niveau de notre nation, il est à un niveau alors qu'on ne l'est pas. Et les choses qu'ils pensent que c'est simple, c'est pas aussi simple. On n'a pas gagné la bataille des signes, comme tu disais, ostentatoires. Des gens, ils veulent faire. Elle fait dire aux gens, pour l'amour du professeur, mettez la barbe. Faites une petite séparation. Si une sunna, tu dors, elle vient. Elle ne te demande aucun effort. Au contraire, si tu fais l'inverse, chaque jour, tu dois te raser. Tu as une sunna, mashallah. Tu dors et tu rages. Ça pousse tout ça. Tu ne fais aucun effort. Tu, mashallah, c'est. Essaye de dire ça, yani muslimine, d'une façon générale, non. Et tu vas trouver une résistance terrible. C'est pas aussi simple. Et c'est pas aussi simple dans les résultats. Et donc ça, c'est une chose, ils sont rentrés dans le cadre où ils n'aiment pas les belois. Il y a des choses, on est rentrés dans des phénomènes qui sont devenus des phénomènes communautaires. C'est un phénomène de communauté, c'est pas une personne ou deux. Nous, on a été tellement influencés par l'Occident, par le Sémar, que ça y est, c'est devenu, on a pris un exemple, l'exemple de, qu'on les suit même dans des signes qui sont des signes extérieurs. Il ne faut pas négliger, rien n'est négligeable. Et donc ça, c'est des... quand on cite le hadith, où les gens disent « La sunna firqa finnar », etc., les ulama, ils disent « ça ne concerne pas ». Ce hadith, le sunna ne parle pas du commun des musulmans. Ah, voilà. Et le fait qu'il dit « finnar », il y a aussi le fait que l'enfer, il y a l'enfer qui est éternel, qui est le châtiment des koufars, et il y a l'enfer qui n'est pas éternel, qui est le châtiment des musulmans qui sont tombés dans les grands péchés. Et ce hadith va aussi avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Men da'a ila huda, kana lahu min al-ajri, mislu ujuri man tabi'ahu, la yankusu zalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dalala, kana alayhi min al-ismi, mislu athami man tabi'ahu, la yankusu zalika min athamihim shay'a. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui qui fait da'wa, qui appelle les gens vers une sunna al-hidayah, il a son ajr, l'ajr de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ça diminue de leur ajr, oui, de leur récompense. C'est-à-dire que plus ils ont les hasanat, plus tu as avec eux. Sans que ça diminue à leur niveau. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنتسب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به والمتسبب للضلال بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم. فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. وسلوي كي يابل لي جون فير لو بيان الا اوتون دو اجر لوسكيل اكسب اي اكسبت دعوته الا اوتون دو اجر افيك سون كو سا توش ا لور ريكومبونس اي لانفيرس. يقول هذه قاعدة شرعية كما هو مذكور في غير هذا الموضع. قال تعالى ليحملوا اوزارهم كامنة يوم القيامة. قال تعالى وابن القيم يسيت قول الله عز وجل سندير بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيعني هذه طريفة الرسول صلى الله عليه وسلم يا سيتي خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه يا الذين امنوا تقول كنت يساجي دون لا ديمونستراسيون دون لا فول اون سيت با اون دي با بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دون لا ديمونستراسيون on cite directement le verset quand les compagnons sont venus au prophète. Ah, ils ont dit l'Azawajal a cité un des versets dans le shirk, c'est ça, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit dans ce verset concerne le shirk, vous n'avez pas entendu l'Azawajal une shirk à la dhulmun azim. Donc il a cité le verset directement sans dire que, comme disent certains de nos orateurs, chaque fois qu'il vient dans un verset, hein, il se force à dire بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. T'es pas en train de, c'est-à-dire le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, c'est quand t'as l'intention de réciter le Coran. دخلت القرآن هذه الآية تقول كذلك ودخلت القرآن فاستعيذ بالله. Donc quand tu veux réciter, quand tu veux lire, tu dis ça. نعم تفضل. يحملوا أوزارهم. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Donc on a dit, Ibn al-Qayyim il a cité verset sans citer cela. Ça c'est parmi les erreurs communes qui sont connues. Il y a une autre erreur aussi qui est connue, le fait de dire un tel, tu lui dis flan, il blague l'islam. Un tel, ça te transmet le salam, si on le traduit. Non, on ne dit pas ça. C'est là que tu dis. Un tel te lit le salam, du Qari au Kassalam. On veut écouter un dos avec un chir, tu lui dis voilà, l'assemblée, cette assemblée, pas te transmet le salam. Hein? Parce que c'est lui, c'est toi qui es transmetteur du salam. Je transmets le salam de ceux qui sont dans cette assemblée. Ou tu dis, Yannir, au Qari au Kassalam. Ou à cette assemblée, te lit le salam, c'est ça. Ça, c'est une erreur connue, parce que tu transmets. فلان يبلغ الاسلام ça c'est quelque chose de الحضور يبلغونك السلام. Non, c'est toi qui fais le tabligh de salam. Et donc tu dis الحضور يقرؤونك السلام, فلان يقرؤك السلام, tu lis le salam. Ça c'est parmi les erreurs très répandues يعني dans la, c'est une faïda de Cheikh Mahmoud Abu Abd al-Rahman al-Jazairi. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا. Celui qui appelle la nation, Ibn al-Qayyim dit, celui qui appelle la nation à autre que la sunna du prophète, il est son ennemi, dans le sens qu'il coupe le chemin à ceux qui veulent suivre la sunna du prophète. Et tous ceux qui suivent la sunna, il rajoute l'ajr au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui combat, qui appelle à la bid'a ou qui contre la sunna, il est l'ennemi du prophète, dans le sens qu'il va dans le sens de diminuer le fait qui arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه. Il lui coupe l'ajr. وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان. أرقي يسيت الحديث ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل أتاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا, يعني حسد غبطة. الحسد en français c'est jalousie. لا حسد إلا فتنتين. Donc la jalousie, c'est un attribut négatif dans tous ses sens, ou est-ce qu'il a un sens qui peut être positif? Là, dans ce hadith, Salam dit on ne peut être jaloux que de deux. La jalousie n'est bonne que dans ces deux cas. Celui qui voit quelqu'un qu'Allah lui a donné beaucoup d'argent et qu'il est en train de l'utiliser, de le de le détourner fi sabilillah halakati fil haqq, c'est-à-dire qu'il tellement il fait le bien avec cet argent qu'il laisse rien. Allah Azza wa Jalla donne beaucoup d'argent, mais lui tellement il fait les bonnes actions avec qu'il le lapide dans le bien, il le délapide dans le bien, c'est ça, il le détruit dans le bien. Tellement il le détruit dans le bien, ça veut dire, ça montre cette bonne intention de cet homme qui essaie d'avoir des hasanats. C'est-à-dire qu'il lui a donné cette ni'ma d'argent, et tellement il veut la dépenser pour sa bille, c'est comme s'il détruisait Adallah. C'est comme s'il détruisait ce qu'Allah Azza wa Jal il lui a donné comme ni'ma fi sabilillah. Et le rajoul atahu Allahu al-ilm et atahu Allahu al-hikma fa wa yaqdi biha wa yu'allimuha. Al-hikma, ça englobe la sagesse, ça englobe la science, et le fait de prendre cette science et de la mettre là où il faut, de bien la comprendre, de bien la pratiquer. Donc fa wa yaqdi biha, il l'utilise pour le fada, c'est-à-dire qu'il, en français on dit yaqdi biha, c'est-à-dire il juge. Et il l'enseigne. Et donc celui qui a cette science, dans ce hadith, il donne aussi l'exemple de la science, pas l'argent, pas le bien. L'argent, c'est quelque chose d'important dans la vie matérielle. Et donc il a donné l'exemple avec ceux qui ont cet argent, côté matériel, qu'il utilise dans le bien, parce que d'internet, il n'est pas venu pour qu'on dilapide nos biens comme ça. C'est pas une religion qui veut qu'on vive que dans la spiritualité. L'argent, c'est quelque chose d'important. Et ma question importante, c'est le fait c'est l'utiliser dans le bien. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, lorsqu'il a donné l'exemple de l'hikmah de la science, il a donné en parallèle à l'argent, il a dit, il n'y a pas de bonne jalousie que dans cela. Hein, qu'on soit jaloux, c'est-à-dire qu'on espère la même ni'ma sans espérer que Allah azza wa jal l'enlève de ceux qui l'ont. C'est le ghibta. Al-Ghibta, c'est espérer avoir la même ni'ma qu'un tel sans espérer que Allah Azza wa Jalla lui enlève. Tandis qu'il hasad, la mauvaise, ça c'est la bonne jalousie. Et la mauvaise jalousie, c'est le fait de voir quelqu'un qui a une ni'ma, tu veux l'avoir sans qu'il l'a. C'est ça. Ça c'est le hasad. C'est la mauvaise jalousie. Et c'était hasad al-Ghibta, donc ça c'est l'explication de Ibn Qayyim. ويتمنى مثل حالي من غير ان يتمنى زوال نعمة الله. Donc il espère la même chose que ce qu'il a sans espérer le fait que celui qu'il a يعني il la perde. وهي الاحسان الى الناس بعلمه او بماله. Donc là il a dit هذان الخصلتين, ces deux caractéristiques, c'est le fait de bien se comporter avec les gens avec la science et l'argent, hein, le fait de faire du bien à l'entourage par la science et par l'argent. وما عدا هذين فلا ينبغي غبطته ولا تمني مثل حاله لقلة منفعة الناس. À part ça, il a dit, c'est des choses auxquelles il ne faut pas aspirer. C'est-à-dire, des fois, les gens voient des ni'am, c'est des gens, les ni'am qui méritent quand on soit jaloux, c'est quand on voit Ali, mashallah, il a la maîtrise du Coran, de la Sunna, etc. On espère avoir la science qu'il a. Hein? Ça mérite. On voit quelqu'un, Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de bien, il arrive, il sadaq fi sabilillah, etc. Il met cet argent au profit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sabilillah. Ça mérite, d'être jaloux aussi. À part ça, Ibn Qayyim, il dit que toute autre chose, ça ne mérite pas. Et on voit les aspirations d'aujourd'hui, nos jeunes, hein, ils aiment bien avoir la maîtrise sportive de certains. Hein. Et les intérêts, les ports d'intérêt qu'a notre nation, ça montre, comme on a dit dans les cours d'avant, ça montre les centres d'intérêt, ça montre le niveau de foi dans laquelle ils sont. Et ce qui nous entoure, on est obligé d'être imprégné, d'être influencé, comme on dit. Oui, bon, le fait que quelqu'un, tu lui dis, tu parles de football, ça paraît quelque chose de normal. Tellement, c'est quelque chose qui est répandu, c'est des ports d'intérêt. Quand il a un vide, Shaitan, il doit le remplir par quelque chose. Mais celui qui ne s'occupe pas de la science d'Achara, Shaitan, il vient, il lui donne. Il s'occupe de futilité. Les gens qui, je sais pas, il prend un ballon, il le tire, il est content. Parce que le ballon, il est passé entre les. Quel intérêt. Il est tout content que l'autre, il a marqué un but, je sais pas, il saute et tout. Alors est-ce qu'il a gagné de l'argent? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné, il est toujours dans ses problèmes. Et malgré ses problèmes, en plus, il y en a le temps qu'il les consacre, avec le temps, il est précieux pour lui. Peut-être qu'il a des intérêts derrière. Et malgré ça, il s'occupe de choses qui ne lui amènent aucun intérêt. Il se passionne pour cela. Il est fait. C'est pour ça que quand on ne se passionne pas à notre religion, quand on n'a pas cet axe important, ce cœur qui est vivant vis-à-vis de notre religion, là, il fait qu'on s'occupe d'autres choses et ces choses-là sont des futilités qui nous ramènent aucun intérêt. Rabbi Ofkhono et Yakumouf. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si tu étais. Je me suis fait un petit peu éparpillé dans le cours. Machallah, j'ai dépassé un petit peu le. Oui. Marakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum wa fikum.